DW. Info Matin.
Bonjour et heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'Info Matin du mardi 28 mai 2024, 7h en temps universel et à Dakar, 2h de plus ici en Allemagne. Hugo Flotatalon, bonjour.
Bonjour Eric Topona, bonjour à toutes et à tous.
Au menu de cette matinale, début aujourd'hui à Dakar, justement des Assises Nationales de la Justice. Jusqu'au 4 juin, les participants vont se pencher sur ce secteur pour identifier les dysfonctionnements et surtout faire des propositions d'amélioration.
Dans ce journal aussi, la suite de notre série sur la cité portuaire de Minova en République démocratique du Congo. La localité est menacée par les incursions des rebelles du M23.
Élections législatives demain en Afrique du Sud dans un contexte peu favorable pour l'ANC, le parti au pouvoir, un parti embourbé dans plusieurs scandales de corruption. Le sport, ce sera avec Ali Farah dans un gros quart d'heure. Il sera question du barrage retour pour la Bundesliga.
Et puis la rubrique bouge, le grand un reportage en Centrafrique ce matin consacré aux conséquences de la guerre en Ukraine et dans la bande de Gaza sur certains secteurs de l'économie africaine.
Voilà pour le sommaire d'Info Matin pour l'instant. On va commencer dans un instant, dans une poignée de secondes avec le flash d'information avec vous Hugo et vous avez 5 minutes top chrono.
De nouveaux bombardements israéliens sur la ville de Rafah ce matin, moins de 48 heures après le bombardement d'un camp déplacé dans la ville. Bombardement qui a fait 45 morts selon le ministère de la Santé à Gaza, géré par le Hamas. Un bombardement condamné par les diplomates de nombreux pays dans le monde hier. Des manifestations ont eu lieu dans plusieurs pays aussi hier soir en réaction. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou s'est lui exprimé devant le Parlement israélien hier sur les faits.
Nous avons déjà évacué à Rafah plusieurs millions de résidents non impliqués. Et malgré nos immenses efforts pour ne pas blesser ces personnes, un accident tragique s'est produit la nuit dernière. Nous enquêtons, nous en tirerons des conclusions parce que c'est notre politique. Mesdames et messieurs les membres de la Knesset, pour nous, toute personne non impliquée qui est blessée est une tragédie. Pour le Hamas, c'est une stratégie, c'est toute la différence.
Et ce mardi doit se tenir une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU. L'Espagne, la Norvège et l'Irlande doivent reconnaître aujourd'hui officiellement l'existence d'un État de Palestine.
Volodymyr Zelensky est attendu à Bruxelles ce matin.
Le président ukrainien doit signer un accord bilatéral de sécurité avec la Belgique. Le pays a d'ailleurs annoncé il y a moins d'une heure qu'il devrait fournir 30 avions de combat F-16 à l'Ukraine. Cette visite de Volodymyr Zelensky intervient dans le cadre d'une tournée en Europe du président ukrainien. Il a appelé hier déjà les Occidentaux à contraindre la Russie à la paix, je cite, par tous les moyens. Des armes pour l'Ukraine et de l'argent pour la Syrie aussi. Près de 5 milliards d'euros promis pour les réfugiés du pays lors d'une conférence de donateurs internationaux hier à Bruxelles encore. Une partie de l'argent doit notamment aller en direction du Liban, de la Jordanie et de l'Irak, où sont réfugiées de nombreuses personnes syriennes.
7900 personnes évacuées en Papouasie-Nouvelle-Guinée.
Mesure de sécurité alors qu'on craint un nouvel éboulement. Après le premier vendredi, les secours cherchent désormais des survivants. Mais face à la violence de l'effondrement de la montagne, la situation est désespérée. Seuls 5 corps ont été retrouvés jusqu'à présent. Les secours estiment que 2000 personnes pourraient avoir été ensevelies vivantes. En mer Méditerranée, ce sont 100 personnes qui ont été sauvées par le bateau de secours SOS Humanity ces dernières heures. Deux sauvetages distincts effectués par ce bateau de secours allemand. Des bébés et des enfants en bas âge ont notamment été pris en charge.
À suivre, Hugo, ce mardi, le retour de Donald Trump au tribunal.
Dernière ligne droite au procès de l'ancien président américain, accusé d'avoir falsifié des documents de ses entreprises pour cacher un paiement de 130 000 $ à une actrice pornographique pour qu'elle taise une relation. Donald Trump, qui doit revenir au tribunal aujourd'hui, nie toutes les accusations. Le président français en exercice, Emmanuel Macron, pour lui, suit lui sa visite d'État en Allemagne. Hier soir, il tenait un discours devant plusieurs milliers de personnes à Dresde, dans l'est du pays. Et à moins de 2 semaines des élections européennes, il a tenu hier soir à s'adresser aux Européens, justement, et aux Allemands, s'essayant même à parler dans la langue de Goethe. Écoutez.
Ich lernte die deutsche Sprache und Kultur und tue das immer noch. Et donc, il nous faudra, dès les prochains mois, en Européen, redéfinir ce cadre. Quels sont nos risques? Quels sont nos adversaires et nos ennemis? Quelle est la nature des risques et des menaces? D'où peuvent-elles venir? La Russie? L'Iran? D'autres puissances? Nous devons bâtir ensemble un nouveau concept de sécurité commune. Et sur cette base, définir les capacités dont nous avons besoin, les projets communs à construire et les projets industriels, technologiques et d'innovation à construire ensemble en européen.
Et ce mardi, Emmanuel Macron retrouve Olaf Scholz à Berlin, le chancelier allemand notamment, pour parler Europe. Allez, et puis en quelques secondes, je ne résiste pas à vous faire écouter cela, Eric, encore. Voilà, c'est pas un match de foot, c'est une ambiance impressionnante quand même hier pour la Mannschaft, l'équipe nationale allemande. Près de 15 000 personnes se sont ruées à son entraînement à Iéna, dans l'est du pays. L'équipe de foot allemande prépare l'Euro qui aura lieu justement en Allemagne dès le 14 juin et qui devrait déchaîner ici toutes les passions. On repart le sport dans 20 minutes avec Ali Farhat.
Merci Hugo Flota Talon pour le flash d'information. La suite d'Info Matin.
DW.
Réformer la justice sénégalaise, c'est l'un des défis qu'entendent relever les nouvelles autorités du pays.
Oui, un dialogue national sur la réforme et la modernisation de la justice démarre ce mardi à Dakar. Il va réunir les professionnels de la justice, les représentants de l'État, les organisations de la société civile et les partis politiques.
Oui, selon le ministre sénégalais de la Justice, Ousmane Diène, le débat sur le pouvoir judiciaire devrait permettre d'identifier les déséquilibres éventuels ou réels dans ce secteur et les moyens d'y remédier dans l'intérêt de la République.
Ibrahima Kane est chercheur à la Fondation Open Society qui est basée à Dakar. Il rappelle que le président Bassirou Diomaye Faye et le premier ministre Ousmane Sonko ont eu des problèmes avec la justice puisqu'ils ont été incarcérés.
Ils ont eu mal à partir avec la justice sénégalaise et ils ont eu énormément de difficultés à gérer les problèmes judiciaires pendant qu'ils étaient dans l'opposition. Ils pensent que c'est nécessaire maintenant qu'ils sont au pouvoir de régler rapidement ces questions de manière à ce que, à l'avenir, de tels problèmes ne se reproduisent plus. Il y a le problème de l'indépendance de la magistrature, il y a le problème de certaines procédures. On a comme l'impression qu'ils veulent s'attaquer à des problèmes spécifiques avant même de commencer à penser à ce qu'ils appellent la transformation structurelle du Sénégal.
Alors, vous avez parlé de l'indépendance de la justice. Vous croyez que cela est possible aujourd'hui dans un pays comme le Sénégal?
Vous savez, l'indépendance de la justice a deux aspects importants. Il y a un aspect institutionnel, c'est-à-dire mettre en place toutes les garanties pour permettre à un juge d'exercer ses fonctions et de juger selon la loi et selon sa conscience. Mais il y a aussi le fait qu'un juge indépendant, c'est d'abord un juge qui veut être indépendant personnellement. Parce que vous pouvez avoir la loi avec vous et ne pas vouloir être indépendant. Et ça, récemment, le Sénégal en a fait la démonstration. Il y a beaucoup de juges qui ont accepté de faire le jeu du pouvoir. Alors que vous savez, si vous vous rappelez, pendant la période de février où tout avait été fait pour interdire à Sonko de participer à l'élection, il y a des jeunes juges qui ont été courageux, qui ont annulé des décisions étatiques à l'époque. Cette question-là, au fond, ne s'oppose pas, parce que si un juge ne veut pas être indépendant, il ne le sera jamais. Si on veut transformer le Sénégal, si on veut instaurer une rupture totale dans la manière d'opérer de l'État et de son administration, il faut commencer par réfléchir sur le général, pas sur le spécifique. Il faut commencer par repenser la Constitution. On pourra plus tard avoir une idée de comment doit être la justice, comment doit fonctionner le Parlement, comment on doit organiser des élections.
Voilà, c'était Ibrahima Kane qui insistait sur le fait que le président sénégalais et son premier ministre veulent d'abord réformer la justice avant même de s'attaquer aux autres problèmes du pays. Ibrahima Kane, chercheur à la Fondation Open Society basée à Dakar, au micro de Georges Ibrahim Tunkara. Je rappelle que ces assises vont s'achever le 4 juin prochain. Toujours concernant le Sénégal, une confirmation, l'ancien tirailleur sénégalais Oumar Diémé qui vit aujourd'hui à Dakar, âgé de plus de 90 ans, va porter la flamme olympique en France. Ce sera à l'ouverture des Jeux olympiques qui seront célébrés entre le 26 juillet et le 11 août de cette année en France.
Boubacar Traoré, un des proches du Premier ministre malien Choguel Ilkokala Maïga, a été interpellé hier par des hommes du renseignement quelques jours après la publication, c'était vendredi, d'un document ouvertement critique de la junte au pouvoir.
Et également au Mali, l'armée malienne a indiqué avoir infligé de lourdes pertes aux djihadistes et perdu 5 hommes en repoussant une attaque dans l'ouest du pays, c'était dimanche.
Des combattants d'un groupe armé affilié au groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, l'alliance djihadiste, elle-même affiliée à Al-Qaïda, ont mené une attaque avec utilisation de 2 véhicules kamikazes et des tirs d'obus contre un poste de l'armée dimanche à Mourdia, dans l'ouest à 200 km au nord de Bamako. C'est en tout cas ce que dit l'armée dans un communiqué publié dans la nuit sur les réseaux sociaux.
Encore en bref, des hommes armés ont tué au moins 8 personnes et enlevé environ 150 villageois dans le centre du Nigeria.
Le principal syndicat de la presse en Guinée a menacé hier d'une grève générale et illimitée après l'interdiction de plusieurs médias par les militaires au pouvoir. Cela se passe dans un contexte de sévères restrictions là-bas à la liberté d'informer.
Et toujours en Guinée, les avocats de 12 anciens responsables gouvernementaux et militaires jugés pour le massacre commis en 2009. En Guinée, c'est donc les avocats de ces responsables ont commencé à plaider hier à Conakry. Il s'agit là de la dernière phase de ce procès jugé historique.
Vous écoutez la DW.
En République démocratique du Congo, nous poursuivons notre série sur la cité portuaire de Minova, menacée depuis le début du mois de mai par les rebelles du mouvement du 23 mars.
Alors que les combats se poursuivent dans le Massissi, à la lisière du Sud Kivu, dont Minova représente la porte d'entrée, les blessés affluent dans l'hôpital de référence de la ville. Reportage ce matin de Paul Lorgerie.
Raphaël et Daniel sont inquiets. Frères d'armes, ils étaient encore sur la ligne de front il y a peu, alors que leurs femmes, vivant sous le même toit, se sont fait tirer dessus par des présumés Wazalendo, des miliciens supplétifs de l'armée congolaise. Daniel, la vingtaine, n'en revient toujours pas.
Cette histoire nous étonne beaucoup. Imaginez-vous, vous êtes sur la première ligne de front et quelqu'un vient vous dire que ceux que vous avez laissés dans votre maison viennent d'être attaqués par des personnes supposées être les amis de la République. Ça me dépasse tout simplement.
Sa femme, Grace, a été touchée par plusieurs balles, tout comme son amie Esther, qui se repose sur le lit d'à côté.
Nous venions de partager le repas du soir quand soudain nous avons entendu des bruits à notre porte. Prise de peur, nous sommes allés nous cacher dans la chambre sous le lit quand les Wazalendo ont commencé à tirer sur la maison en nous ordonnant de sortir si nous étions des civils. C'est dans ces conditions que nous avons perdu une de nos collègues et qu'Esther et moi avons été blessés.
Dans la pièce voisine, un soldat blessé au front gît dans son lit. Il raconte la violence des combats.
Quand nous étions sur la ligne de front, l'assaut de l'ennemi a été brusque. J'ai vu les autres combattants en face alors qu'ils étaient à moins de 25 mètres de notre position. L'homme qui m'a blessé a tiré 3 balles sur moi et m'a laissé pour mort. Durant la nuit, sous une forte pluie, les collègues sont venus en renfort pour extirper les corps sans vie et les blessés en repoussant l'ennemi. J'ai repris connaissance quand j'étais sur une moto en direction de cet hôpital des religieuses catholiques où vous me trouvez aujourd'hui.
Depuis février, l'hôpital a accueilli plus de 300 personnes ayant subi des blessures de ce type et parfois plus graves encore. Mais l'établissement n'a pas les équipements nécessaires pour soigner tous les traumatismes, comme l'explique le docteur Lavi Kassidika, médecin-chef des lieux.
La sévérité aussi des blessures. Il y a des traumatisés graves qu'on ne sait pas prendre en charge, surtout des traumatisés crâniens qui demandent vraiment des chirurgiens un peu spécialisés et notre hôpital n'a pas cette capacité.
Tout cela en bénéficiant d'un appui minime, notamment de la part de l'ONG Médecins Sans Frontières. Paul Lorgerie, de retour de Minova pour la Deutsche Welle.
Au Tchad, le nouveau Premier ministre Alamaï Halina a dévoilé hier la liste des membres de son gouvernement, gouvernement constitué essentiellement de proches du président Mahamat Idriss Déby Itno, qui a été reconduit, qui a donc reconduit à leur poste ses ministres. Le nouveau gouvernement est constitué de 35 ministres, dont 7 secrétaires d'État. Dans la liste, 23 y ont conservé leur poste ou permuté de ministère contre 12 nouveaux arrivants. Aucun cadre du parti de l'ancien Premier ministre à succès Masra ne fait partie de ce nouveau gouvernement.
À l'invitation du président chinois Xi Jinping, le président de la République de Guinée équatoriale, Teodoro Obiang Nengma Masombo, poursuit sa visite en Chine. Elle a débuté dimanche et doit s'achever vendredi.
Oui, la première visite du président équato-guinéen Teodoro Obiang Nengma Masombo en Chine. La première visite du chef, d'un chef d'État équato-guinéen en Chine, date de 1984. Plusieurs autres séjours du président Teodoro Obiang Nengma Masombo ont suivi jusqu'à cette récente visite, la visite qui est en cours. C'est le signe, selon plusieurs analystes, que les relations bilatérales entre Pékin et Malabo sont solides et prospères durant ces 54 années d'amitié et de fraternité. Info matin, il est 7h15 en temps universel, 15h15 à Pékin.
Rendez-vous sur Facebook DW Afrique.
Et il est 9h15 à Johannesburg, en Afrique du Sud, dans le 29 mai. Les Sud-Africains sont appelés aux urnes 30 ans après le premier scrutin démocratique et multiracial de 1994, scrutin à l'issue duquel Nelson Mandela a été élu premier président noir du pays.
Et c'est l'heure du bilan pour le Congrès national africain, l'ANC, ancien mouvement de libération, toujours au pouvoir, mais embourbé dans des affaires de corruption et de rivalité intestine. Sa cote de popularité est en chute libre.
Et selon plusieurs sondages, le parti au pouvoir, l'ANC, pourrait pour la toute première fois perdre sa majorité absolue à l'Assemblée nationale, comme nous l'explique Patricia Huyon.
T-shirt jaune, vert et noir, chapeau, foulard, Sarah Moradi porte les couleurs du Congrès national africain de la tête aux pieds. Cette institutrice à la retraite attend le président Cyril Ramaphosa qui boucle sa tournée de campagne à Soweto, le plus grand township du pays, symbole de la lutte contre l'apartheid à une quinzaine de kilomètres au sud de Johannesburg.
Je continue de soutenir l'ANC. Je suis une vétérane. Cyril Ramaphosa est quelqu'un de très intelligent. Nos vies se sont améliorées. Nous recevons des allocations. Nos enfants vont à l'école gratuitement. J'ai 4 enfants. Ils sont tous diplômés.
Lorsqu'il prend le micro, Cyril Ramaphosa ne manque pas de faire référence au combat historique mené par l'ANC.
Nous sommes ici pour rendre compte aux légendes de notre mouvement, à Nelson Mandela qui a vécu ici même, pour lui dire « Président, ne vous inquiétez pas, l'ANC va gagner cette élection ».
Sur les problématiques actuelles, le chef de l'État a moins d'aplomb. Il sait qu'il doit convaincre.
Nous voulons faire avancer ce pays. Nous voulons que nos jeunes aient du travail.
Des promesses auxquelles Johanna Mabasso ne croit plus. Cette mère célibataire gagne sa vie en faisant des ménages. Depuis la pandémie de Covid-19, elle ne travaille qu'un jour par semaine et peine à payer les factures de la petite maison où elle habite avec sa fille adolescente.
Nous espérions que nos vies allaient changer en tant que personnes noires. Nous étions tellement heureux. Je ne sais pas ce qui s'est passé sur le chemin, mais ils nous ont promis des choses et ils ne tiennent pas ces promesses. La vie est dure. Pas d'eau, pas d'électricité, pas de travail. Maintenant, ils veulent qu'on vote pour eux parce qu'ils sont en difficulté, mais quand ce sera terminé, ils nous oublieront.
Le ras-le-bol est général. Pour la première fois depuis 1994, l'ANC pourrait passer sous la barre des 50% et être obligé de former une coalition pour gouverner le pays. À Johannesburg, Patricia Huon pour la Deutsche Welle.
Les Nations Unies ont annoncé hier avoir réussi à réunir près de 5 milliards de dollars de nouvelles promesses pour réduire la fracture numérique mondiale, portant le total des promesses de dons à plus de 50 milliards de dollars, la moitié de son objectif.
59e assemblée annuelle du Conseil des gouverneurs de la Banque africaine de développement et 50e assemblée annuelle du Conseil des gouverneurs du Fonds africain de développement qui se tiennent ces jours-ci. Ça a commencé hier et ça se poursuit jusqu'à vendredi. Ça a lieu au centre de conférence internationale Kenyatta de Nairobi au Kenya.
Et le Kenya où se déroulent les auditions publiques sur des allégations de violation des droits de l'homme par les forces britanniques dans le pays implanté près de la ville de Nanyuku depuis les années 60. La British Army Training Unit Kenya est composée d'environ 300 soldats. Elle fait l'objet de plusieurs procédures en justice. Il est bientôt 7h20 en temps universel. Il est l'heure de retrouver l'extrait du magazine de Sandrine Blanchard, le magazine Droits et Libertés consacré cette semaine à cette question. C'est quoi être allemand?
Cette semaine dans Droits et Libertés, on se demande ce que cela veut dire d'être allemand. Et notamment quand on a obtenu la nationalité sur le tard.
Il y aurait 100 réponses à la question « qu'est-ce que c'est l'identité allemande ?» C'est quelque chose qu'une personne ressent subjectivement. Il n'y a pas d'identité allemande fixe, ça n'existe pas.
Le problème, c'est quoi? Le fait de tenir le passeport allemand, bon, ne me fait pas vraiment allemand, un allemand. Dans la vie courante en général, on se sent toujours étranger en fait.
Retrouvez Droits et Libertés le mardi et le jeudi à 17h30, temps universel.
DW, le sport, Ali Fahad.
Hier soir avait lieu le barrage retour pour la Bundesliga, le championnat allemand de football. Et c'est un véritable exploit qu'a réussi Bochum, Ali Fahad.
Battu 3-0 à domicile jeudi dernier par le Fortuna Düsseldorf, troisième de deuxième division, le VfL Bochum avait très peu de chances de se maintenir dans l'élite. Mais les hommes de l'entraîneur intérimaire Heiko Butcher ont malgré tout joué leur chance à fond et sont parvenus à marquer 3 buts sur la pelouse du Fortuna, remettant ainsi les deux équipes à égalité avant de s'imposer lors de la séance de tir au but. Une soirée incroyable après tout ce que le club a vécu, a estimé Philipp Hoffmann, double buteur hier soir.
Nous étions dos au mur, c'était tout ou rien. Nous savions que nous étions capables de marquer 3 buts à l'extérieur, nous l'avions fait cette saison à Berlin. Personne ne nous voyait revenir. Maintenant, c'est difficile à réaliser, mais après toutes ces semaines difficiles, c'est un véritable soulagement. Bochum reste donc en Bundesliga pour la 4e saison consécutive. Le Fortuna Düsseldorf, lui, devra encore patienter avant de retrouver l'élite qu'il avait quittée en 2020. Un mot de tennis maintenant avec le tournoi de Roland-Garros qui a débuté cette semaine. Et hier après-midi, pas d'exploit pour Rafael Nadal. Vainqueur à 14 reprises de ce grand chelem sur terre battue, l'Espagnol n'a rien pu faire face à Alexander Zverev, tête de série numéro 4, et a été battu en 3-7, 6-3, 7-6, 6-3. Peut-être s'agissait-il là de la dernière de Nadal à Roland-Garros. L'intéressé n'a pas encore tranché, mais a annoncé qu'il ferait le nécessaire pour revenir à Paris en vue des JO. Je ne peux rien dire, mais mon but principal maintenant est de disputer les Jeux Olympiques qui auront lieu ici. Donc je dois me préparer du mieux possible pour arriver en très bonne santé et on verra bien ensuite. On notera par ailleurs les qualifications chez les hommes de Yannick Sinner ou encore Stefanos Tsitsipas pour le tour suivant. Hans Jaber et Iga Świątek chez les dames se sont qualifiés pour le deuxième tour.
Ali Fahad qu'on va retrouver dans notre édition de ce soir, 17h en temps universel. Le sport est également à retrouver sur notre site internet www.dw.com/français.
L'Afrique qui bouge. Reportage économique.
La guerre en Ukraine et dans la bande de Gaza, on en parle quasiment tous les jours hein, sur notre antenne. Et ces guerres ont des conséquences indirectes sur certains secteurs vitaux de l'économie africaine.
Oui, c'est le cas notamment des pays producteurs de diamants qui ont vu leur économie affectée. La République centrafricaine, par exemple, est aussi productrice de diamants et elle n'est pas épargnée.
Oui, la chute est estimée à 40% du PIB. Et cette situation décourage les artisans miniers qui enregistrent de plus en plus de méventes. Le gouvernement centrafricain doit changer de stratégie et investir pour espérer sauver le secteur. Jean-Fernand Koina est notre correspondant à Bangui.
Pays producteur de diamants, la République centrafricaine peine à entrer des devises à l'État et pourtant sa production est estimée à environ 100 millions de dollars US par année. En cause, le diamant synthétique qui inonde le marché, poussant les demandeurs à se tourner vers l'or. La crise est sans précédent et décourage les collecteurs. Le diamant centrafricain provient de certaines villes le long de deux veines de gisements alluvénaires dans les régions orientales et occidentales du pays. Nous sommes à Berberati, capitale de la Mambéé-Kadéï, à plus de 500 km au sud-ouest de Bangui, la capitale est à environ 150 km de la frontière camerounaise. Ici, l'exploitation de la matière est de plus en plus problématique. Ibrahim Dungous n'en peut plus et nous explique les déconvenues qu'il a enregistrées cette année.
Les difficultés que nous enregistrons dans l'exploitation du diamant sont énormes. L'année passée, Dieu merci, c'était mieux, mais cette année 2024, les difficultés se sont accentuées. Les bureaux d'achat ne subventionnent plus les collecteurs, ce qui fait que les résultats ne suivent pas, la production a baissé. S'ils ont fait des recettes par le passé, ce n'est plus le cas pour le moment. Deuxièmement, nous, les collecteurs, nous faisons de notre mieux pour financer les artisans. Malheureusement, on nous dit qu'il n'y aura pas de marché pour les diamants qu'on amène. S'il n'y a pas de marché, il y a découragement et les activités chutent. J'ai prié pour demander à Dieu et au gouvernement de nous aider pour changer la donne.
Pour contourner ces difficultés, les collecteurs sont contraints de faire des concessions avec les bureaux d'achat qui prennent à crédit leur production. Mais cela ne semble pas faire l'affaire. Le malaise du secteur a aussi poussé les bureaux d'achat à mettre la clé sous le paillasson. Dimitri Gabriel Deya, fort de ses 16 ans d'expérience d'artisan, ne parvient pas à faire face à la crise. Il pointe du doigt l'absence des bureaux d'achat et craint l'impact négatif sur sa famille.
Autrefois, il y avait des bureaux d'achat ici à Berberati. Je peux citer par exemple Pepe Dior, DDC, plusieurs bureaux qui ont beaucoup d'argent qu'ils donnent aux collecteurs, qui à leur tour partagent aux artisans. Ainsi, main dans la main, on finançait les Nagbata, c'est-à-dire les artisans, et les produits sortent. Mais maintenant, le bureau ne finance plus les collecteurs, et les collecteurs non plus ne financent pas les artisans. Donc ça entraîne la baisse de la activité, et on n'a pas la capacité de produire à souhait parce qu'il n'y a pas d'argent.
Cette période de vache maigre impose au bureau d'achat la sélection, mais cela est loin de faire le compte de tous ceux qui sont impliqués dans la chaîne de production.
On ne sait vers qui se tourner pour avoir du financement, pour supporter la charge de la scolarité des enfants, par exemple. Cela veut dire que la baisse de l'activité a impacté très négativement notre économie ainsi que notre ménage. Nous avons des 13 carats groupés, des 10 carats groupés, mais ça n'intéresse pas les bureaux d'achat. Parfois, tu peux même amener un ou trois carats, le bureau te rejette, arguant qu'il ne veut pas payer cette qualité. Tout ce qui les intéresse, c'est le triage. Mais quand est-ce que tu peux vendre le triage pour t'asseoir et construire un avenir pour les enfants?
Conséquence directe, c'est la baisse drastique de recettes liées au diamant. La direction régionale de Berberati, située dans la zone verte certifiée par le processus de Kimberley, n'est plus leader en matière de recettes. Si la guerre en Ukraine et dans la bande de Gaza explique en partie cette situation, certains artisans la justifient par le fait que la Russie mette sur le marché ses réserves pour contourner les sanctions occidentales. André Nalké-Dorogo, ancien ministre des Mines et de la Géologie, estime pour sa part que c'est une situation conjoncturelle pour laquelle le gouvernement doit faire des réformes et investir davantage dans le secteur.
Prospection, parce que pour qu'il y ait augmentation substantielle des carats, il faudrait qu'il y ait prospection pour découvrir de nouveaux gîtes. Ça, c'est le premier facteur. Le deuxième facteur, c'est le prix. Aujourd'hui, le prix du diamant est de plus en plus bas et donc ça n'intéresse plus grand monde. Pour finir, il y a de plus en plus, nous produisons du diamant de joaillerie, 80% et seulement 20% de diamants industriels. Et sur le marché, il y a beaucoup de diamants industriels. Ça fait que le diamant de joaillerie n'a plus l'attrait d'antan. Pour terminer, le monde est en crise, il y a plusieurs guerres qui font que très peu de gens s'intéressent plus au diamant, plutôt ils s'intéressent à l'or qui est une valeur refuge. Tous ces facteurs concourent à faire en sorte que le diamant perde de plus en plus son entrée sur le marché.
Le gouvernement souffre d'ores et déjà de cette situation et doit activer d'autres leviers économiques pour surmonter la difficulté. Jean-Fernand Kouena, de retour de Berberati pour la Deutsche Welle.
Et à 7h29, temps universel, trois titres à retenir dans l'actualité de ce mardi, le début des assises nationales de la justice à Dakar pour une semaine. Un nouvel enlèvement de masse au Nigeria, 150 personnes enlevées dans le centre du pays hier. Et puis cette réunion du Conseil de sécurité, réunion d'urgence de l'ONU qui doit se tenir aujourd'hui après de nouveaux bombardements à Rafah ce matin dans la bande de Gaza.
Merci Hugo Flotatalon. Il y a trois choses extrêmement dures, l'acier, le diamant et se connaître soi-même. C'est une pensée de Benjamin Franklin, imprimeur, éditeur, écrivain, naturaliste, humaniste, inventeur, abolitionniste et homme politique américain. Excellente journée à toutes et à tous.
À ce soir, 17h, temps universel. Ciao.
Tchuss.